Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau podcast de Two Step. Aujourd'hui pour un nouvel épisode de Step Story, je suis avec Laurent Psalis, cofondateur de Circular. Salut Laurent.
Salut.
Alors avant qu'on commence le podcast, est-ce que comme d'habitude tu peux m'expliquer ce qu'est Circular, ce dont on va parler là durant une petite heure?
Pour faire simple, Circular c'est un peu le Fitbit miniaturisé en bague.
Donc c'est la petite montre, le petit bracelet racheté par Google en bague.
C'est ça.
Ok, et bah écoute, comme d'habitude, début de podcast partie 1, moi je vais te laisser te présenter donc ton profil, qui t'es, d'où tu viens, ton expérience. Est-ce que c'est ta première boîte ou pas? En plus, il y a un statut, là vous êtes en crowdfunding, on va parler de la campagne juste après. Dis-moi un peu comment t'en es arrivé là et dans l'entrepreneuriat.
Voilà, bah alors moi c'est Laurent, cofondateur de Circular. À l'intérieur de Circular, j'ai plus un poste financier et gestion de tout ce qui est la finance et de l'équipe, etc. J'ai un background qui est commercial, donc j'ai fait une école de commerce. On a cofondé Circular il y a 3 ans, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. Et voilà, aujourd'hui, on est en campagne de Kickstarter, précommande, et on espère l'explosion après.
On va en parler. Déjà, la campagne, elle a pas mal explosé. On va te donner les chiffres juste après. Et du coup, toi, ça fait 3 ans que tu es sur Circular.
Ouais.
T'as quel âge? Est-ce que tu as fait d'autres boîtes avant?
Ok. Du coup, moi, j'ai 24 ans, bientôt 25. C'est ma troisième boîte.
Ok.
J'ai une marque de vêtements qui s'appelle Hustle Paris aussi.
Qui run encore.
Okay. Et une autre qui a crash.
Ouais.
On aidait les gens à se développer sur Instagram en gros.
Ok.
Il y a eu une nouvelle politique sur Instagram qui faisait qu'on pouvait plus faire ce qu'on faisait et du coup. Voilà.
Ça a tué le truc quoi.
Ouais, on a lâché nos clients.
Ok. Et bah écoute, voilà pour le parcours. Maintenant, présente-moi Circular. Le problème. Comment vous avez décidé de le résoudre? Donc assistant de santé, mais une bague. Ouais. Est-ce que c'est la première bague ou pas? Comment concrètement vous proposez cette solution? Et en plus, tu vas me parler de cette campagne.
Ouais. Alors Circular, comment on a eu l'idée? Faut savoir que dans l'équipe, on est 3 cofondateurs, dont un que j'ai rencontré en école de commerce dans ma classe. Ça faisait 5 ans que j'étais avec lui. Et on portait souvent des Fitbit, on aimait bien le sport, etc. Mais on s'est rendu compte que il y avait des choses qui nous gênaient. Et quand on en parlait autour de nous, il y avait aussi d'autres choses qui nous gênaient. Et ça, qu'est-ce que c'était? C'était que, les données qu'on recevait de ces appareils, ils étaient trop généralistes. T'as couru tant de kilomètres, t'as perdu tant de calories, voici tes phases de sommeil, ça s'arrête là. Souvent, les gens, ils ne savent pas quoi faire avec ces données, etc. On s'est dit, il y a quelque chose à faire. On peut faire quelque chose de bien plus personnel qui peut vraiment aider les gens. Mais pour ça, on s'est rendu compte que pour avoir des données qui puissent être utiles et personnelles, il fallait un objet qui soit portable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors qu'on s'est rendu compte que les gens ne portaient pas leur Fitbit et leur Apple Watch, etc. lorsqu'ils dormaient, par exemple, parce que ça avait trop un look de gadget, ou lorsqu'ils allaient à un événement qui était élégant, ils l'enlevaient, ils ne voulaient pas avoir un bracelet en plastique, etc. Donc on s'est dit, ok, qu'est-ce qui est le meilleur truc? On a pensé à tout et n'importe quoi. On s'est dit, une bague, c'est près du corps. C'est à la mode, c'est discret, c'est confortable. Et on a commencé à en parler aux gens. Ok, ouais, on veut bien dormir avec une bague, ça me va bien. Moi, les bracelets, ça me gêne, etc. On s'est dit, ok, let's go. Donc, tout innocent, on se lance dans ça. On se dit, ouais, bah, on va juste tout miniaturiser dans une bague connectée. Et on a dû recruter des personnes, etc. Parce que nous, comme je t'ai dit, on est background commerciaux, les deux cofondateurs de base. On a rencontré une personne grâce à un site que je recommande énormément.
Vas-y.
AngelList.
Ok, ouais.
Voilà, c'est ouf pour moi. On a rencontré comme ça et on a commencé à travailler dessus. Et voilà, on est rentré en incubation, etc.
Donc, pour revenir un petit peu, en gros, Circular, le principe, c'est de faire un tracker de santé, mais qui est porté 24 heures sur 24 et non plus comme un gadget juste pour aller courir, juste pour faire beau, comme une Apple Watch un peu dorée, etc. Mais vraiment qu'on peut porter tout le temps, qui en plus de ça délivre des stats, de la data exploitable. Voilà. Juste pas, oh, j'ai couru 6 km et demain j'essaye de faire plus. C'est un peu plus que ça.
En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment corréler les données de jour et de nuit avec du machine learning derrière qui est sur l'application. Et on va essayer de donner des données qui sont bien plus poussées que ce que je t'ai dit. Donc, on peut par exemple savoir ton niveau d'énergie pour la journée d'après, savoir si tu deviens faible avant même que les symptômes d'une maladie arrivent. On peut te dire, on peut savoir le temps idéal qu'il te faut pour aller dormir à l'avance. Donc, le prédire et te dire, à cette heure, faut que tu te couches à cette heure-ci. Donc, voilà, vraiment que des choses actionnables et pour améliorer du coup son bien-être par le sommeil, par l'activité physique,
etc. Donc, pour faire ça, il y a la bague, mais la bague, elle est reliée à une appli.
Ouais.
Parle-moi un peu de l'appli, ce qu'on y retrouve dans... Est-ce que c'est une appli classique ou un peu comme santé sur les iPhones, etc. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans l'appli?
Ok. Juste avant ça, j'aimerais juste clarifier parce qu'il y en a plein qui me demandent comment Avec votre bague, vous arrivez à capter tout cela. J'ai omis de dire qu'il y a deux capteurs dans la bague, donc un capteur accéléromètre et un capteur de pouls avec deux LED. Donc, bon, ça, c'est un peu pour les puristes, mais une LED rouge et une LED infrarouge qui vont permettre de faire des choses qui sont bien, bien différentes. Donc, cette bague, elle a un module aussi Bluetooth qui se connecte à une application. Et en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est une application, même dans l'UX, qui soit bien plus simple à comprendre et qui fait plus penser à ce qu'on utilise aujourd'hui tous les jours, c'est-à-dire un réseau social tel que Facebook, Instagram, etc. Donc en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est un espèce de feed sur la homepage de l'application où va y avoir un assistant personnel qui s'appelle Kira qui va venir vous poser des questions ou vous donner des recommandations. Et c'est quelque chose qu'on adore parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a pas de feedback de la personne qui porte son objet connecté. Alors que là, on va avoir un assistant personnel qui va venir te demander, te poser des questions. Est-ce que tu te sens plus comme ça ou plus comme ça? Faut peut-être que tu fasses ça, et qui va vraiment interagir avec toi et qui va du coup te motiver à faire tous ces changements.
Ok. Et dans l'usage, alors la bague, à quel point elle est résistante? Est-ce qu'elle va dans l'eau? De quoi elle est constituée? Est-ce que c'est 140 pièces qui s'emboîtent ou est-ce que c'est 17 ou 5 pièces? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut interchanger? Justement, tu m'as dit que c'est quelque chose qu'on pouvait porter 24-24, donc des fois je pense que quand on va aller en soirée, on n'a pas envie de porter la même bague que quand on va nager à la piscine. Voilà, donc dis-moi les pièces qui sont interchangeables, les différents petits accessoires et comment les constituer.
Ok, bah, en fait la bague, c'était l'idéal pour nous, c'était d'avoir un objet que tu puisses porter du coup 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc pour ça, faut qu'elle soit waterproof, donc jusqu'à 5 mètres de profondeur. Et la deuxième chose, c'est comme tu l'as dit, c'est que les gens ne veulent pas porter un objet en plastique lorsqu'ils vont à un endroit élégant et vice versa, ne pas porter quelque chose en or, je sais pas, ou quelque chose de précieux lorsque tu vas faire du sport pour pas l'abîmer. Donc en fait, on a designé des coques interchangeables. Pour le moment, on a trois coques interchangeables qui permettent de changer et d'adapter le style de ta bague à ce que tu fais en ce moment. Donc la bague en soi, on peut la décomposer en deux grosses parties qui vont être le body et la coque interchangeable.
Okay.
Donc ça, c'est ce que le client voit. Mais bien sûr, après, à l'intérieur, le body est fait en 3-4 pièces, on va dire, au total. Voilà.
Ok. Aujourd'hui, Circular, vous en êtes où? C'était donc, ça fait 3 ans que vous bossez sur le projet. Vous avez passé quoi? On s'en doute un petit peu, mais pendant ces 3 ans, vous avez fait beaucoup de prototypage, beaucoup de tests, beaucoup de développement de l'appli. Donc moi, tu m'as dit que vous étiez deux fondateurs à la base, mais très commerciaux. On se doute que pour faire une bague hyper connectée comme ça, il faut un profil tech, extrêmement tech. Il faut aussi du dev pour faire l'appli, etc. Donc ça, on en parlera dans la partie team. Mais du coup, pendant ces 3 ans, vous avez fait quoi? De l'expérimentation? À quel niveau? Même au niveau de votre marché? Donc tu m'as dit que vous avez fait un peu d'études de terrain avec vos réseaux proches sur est-ce que vous préférez un bracelet ou une bague. Pour créer un produit, il faut donner ce produit au marché ou au moins lui donner tout ce qu'il va pouvoir faire avec. Donc, lui donner un peu de, si tu veux, de... En gros, je voulais dire, comme quand tu fais un logiciel, il faut donner des wireframes, il faut donner des screens, tu pourras faire ça, une bague, tu pourras faire ci, ça. Pendant ces 3 ans, vous avez l'expérimentation, comment elle s'est passée?
Du coup, voilà, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. En fait, le truc qui était compliqué au début, c'est que comme je t'ai dit, on s'est lancé ça un peu innocemment. On s'est dit, allez, let's go. Et ça nous a pris 3 ans à développer pour plein de choses. On s'est rendu compte que même les signaux pour le capteur de pouls, il y avait du travail dessus à faire. Même le signal pour le Bluetooth, pour que ça capte bien, il y avait du travail à faire. Et la chose en fait qui nous a le plus pris de temps, c'était vraiment voilà, avoir un bon signal pour le capteur de pouls. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec une bague, c'est que c'est vraiment en contact avec ton doigt. Alors qu'avec un bracelet, il va y avoir un petit peu d'espace entre le bracelet et ton bras, et tu vas avoir de la perte de données. Sauf que lorsque tu achètes un composant sur le marché, donc un capteur de pouls, tout le travail algorithmique de cette paire de données, machine learning, etc. n'est pas fait, ce qui nous a pris le plus de temps. Donc on a travaillé sur ça, on a travaillé sur les algorithmes de détection de sommeil, d'activité. Ça, c'est des choses qu'on travaille avec des laboratoires.
Okay.
Antoine Becler, par exemple, qui est un hôpital qui s'occupe des malades, des insomniaques, institut de sommeil, etc. Et du coup, voilà, c'est ce qui nous a pris le plus de temps, travailler le firmware, etc. On a tout fait en interne. Par contre, on s'est fait aider sur la partie hardware. Donc, on a eu un peu d'accompagnement. On a travaillé avec des bureaux d'études, etc. Et ouais, le hardware, c'est quelque chose qui est hyper long. En fait, comme le nom l'indique, hard, c'est vraiment difficile. Surtout chez les wearables, où tu as un travail qui est mécanique d'une part et aussi algorithmique de l'autre. Tu dois combiner les deux. Et le côté mécanique, électronique, etc., c'est vraiment quelque chose qui est archi compliqué. Genre l'électronique, même si t'es un expert, il peut toujours avoir des problèmes qui vont être indépendants de toi. Donc c'est des longs process, donc 3 ans comme j'ai dit. À la fin, on commençait un peu à en avoir marre, mais on savait qu'on avait un produit, mm-hmm. quelque chose qui allait plaire et quelque chose qui était innovant. Donc, voilà.
Et ce long process, du coup, tous ces process-là, vous êtes parti sur fonds propres pendant 3 ans.
Ouais.
Comment ça s'est passé? Vous êtes parti, du coup, vous avez mis de côté un petit peu, ou vous êtes parti vraiment, on s'est dit, eh bon, les gars, là, on fait banco. Comment ça s'est passé, la gestion de l'argent ouais. dans les 3 ans? Parce que là, on va en venir à la campagne de Kickstarter, mm-hmm. mais j'ai envie que tu me dises, cette partie de conception, 3 ans, c'est énorme avant de se lancer. Fonds propres, comment ça s'est passé, le financement?
Alors nous, on est parti sur fonds propres au début. Pendant les 6 premiers mois, on ne se payait pas. Au total, je peux le dire, on a mis 20 000 euros à 3.
Depuis 3 ans ?
Non, juste au début.
D'accord. Le début, c'est quoi ? C'est les six premiers mois.
Voilà. Okay. Et ensuite, on a eu de la chance d'être accepté à un Cube Alliance, qui est un incubateur à Orsay, donc sur le plateau de Saclay. Et on a choisi celui-là en particulier parce qu'il était à côté de tous les hôpitaux, tous les centres de recherche. Et nous, c'est quelque chose qu'on avait...
C'est vos collaborateurs clés, quoi.
Voilà, c'est ouf. Pour la mise en relation, c'est ouf. Et on a eu la chance d'être pris dedans. On a eu des avances remboursables. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est on te prête de l'argent, tu dois le rendre une fois que ta société
vous
est lancée.
Vous avez eu
combien? On a eu à peu près 25 000 avec ça.
Okay.
Donc ça commençait déjà. On avait quoi commencer à travailler avec des bureaux d'études, etc. Et ensuite, on s'est fait aider par la BPI, donc la Bourse French Tech. On est aussi rentré dans le réseau Entreprendre. Donc là aussi, 30 000 euros x 2. On a eu un peu de love money qui est rentré, donc on a fait une augmentation de capital avec la famille, etc. Donc en total, on s'en est bien sorti, on a réussi un peu à lever de quoi survivre et de quoi faire ce développement, en fait.
Pendant 3 ans,
et là maintenant on lance le Kickstarter parce qu'on a besoin de beaucoup plus d'argent pour faire les commandes en masse, finir l'application, recruter une équipe. Voilà, c'est énormément d'argent.
Ok, alors justement, ce Kickstarter, donc là on y est, vous êtes lancé depuis 11 jours, c'est ça, parce qu'il reste 20 jours. Vous avez mis un objectif de 20 000 euros. Est-ce que tu peux me dire là combien vous êtes sur la campagne? Moi je l'ai sous les yeux, mais vous en êtes à combien au bout de 11 jours là?
Je crois qu'on est autour des 200 000 euros.
Ouais, vous êtes à 187 000 euros pour 1009 acheteurs.
Okay.
Donc c'est un franc succès, quoi, c'est un succès explosif. Est-ce que vous vous attendiez à ce succès autant?
À vrai dire, nous, on est à fond dans notre produit et oui, on s'y attendait, peut-être pas aussi rapidement dans la campagne. Et maintenant, du coup, on a augmenté nos objectifs et on aimerait bien atteindre les 300, 350 000 à la fin de la campagne.
Ok, alors deux questions. Comme tu me l'as dit tout à l'heure, pour lancer un produit sur Kickstarter, désormais, il faut avoir un prototype.
Ouais.
Donc, vous avez votre proto. Donc, c'est 200 000 euros bientôt. C'est quoi? C'est alors vous, pour financer. Donc pour soutenir le projet, on peut soit mettre 5$ en mode voilà, je te donne 5$ parce que le projet il m'a fait kiffer pendant 30 minutes, je regardais ta page. Mmh. Ou alors c'est 198 euros. Mmh. Qu'est-ce qu'on a avec ce premier forfait? Et ensuite 207, 395. Donne-moi un peu la différenciation qu'il y a entre les packs, etc.
Ouais. Alors juste avant ça, je voulais aussi dire que dans mon parcours et dans le parcours de Circular, on a eu de la chance aussi d'avoir gagné des concours aussi, ce qui nous a rapporté aussi pas mal. Et d'avoir aussi été accompagné aux États-Unis par un club qui s'appelle le Hardware Connection Club. C'est géré par Avnet et Kickstarter et Dragon Innovation. Et Dragon Innovation, c'est là où ça nous a vraiment aidé. C'est les leaders mondiaux pour l'industrialisation.
Okay.
Et ça, c'est vraiment ouf parce qu'ils connaissent tout le monde. On a pu trouver nos usines grâce à eux.
On va en parler parce que votre marché, on voit plus que c'est les States. Ouais. On allait en parler, mais justement, comment vous avez eu accès du coup à ça?
Ça, c'est... En fait, c'est un peu au hasard. On cherchait comment, quelles étaient les règles pour rentrer, pour faire un Kickstarter, etc. On a été mis en relation avec une des dames qui gère à peu près toutes les mises sur le marché de tous les produits qui, voilà, sur Kickstarter. Et elle nous a dit, il y a un programme qui vient de se lancer. Ils prennent que des produits hardware. Donc c'est un groupe qui est vraiment privé des meilleures startups hardware, sur Kickstarter. Mm-hmm. Et on est allé les voir, ils nous ont accepté et c'était trop cool.
Opportunité de ouf, quoi.
Ouais.
Ok, donc là en fait, pour redire en gros ce que j'ai dit sur Kickstarter, t'as 5 euros, soit tu dois 5 euros de soutien, soit en fait, avec les trucs qui commencent à partir de 198 euros, c'est tu achètes déjà la bague.
Voilà, donc en fait, tu précommandes la bague. Qu'est-ce que ça veut dire précommander? C'est-à-dire que tu l'achètes en avance et tu la recevras une fois que nous on l'a construite, quoi, une fois qu'on a fait la production de masse. Donc nous, c'est 6 mois après. Et pour 198 euros, qu'est-ce que tu as? Tu as donc la bague avec une coque interchangeable. et le chargeur, l'application qui est gratuite.
Un an de garantie.
Un an de garantie. Et voilà. Donc 198 euros au lieu de 289 plus tard.
Ok, quand ça sera out en fait. Voilà. Ouais.
Voilà.
Ok, 207, il y a quoi de plus ? C'est quoi la différence entre les forfaits à 20 euros près et puis ensuite à 400 ?
Ouais, en fait, ça, c'est quelque chose sur Kickstarter qui permet de créer un peu d'urgence. En fait, c'est toi qui choisis. Mais nous, on a choisi de mettre, par exemple, les 500 premiers. Ils ont le VIP Pack, ce qu'on appelle, qui a été même à 177 euros.
Si il y est encore, 179 ?
Voilà, 179.
Ah non, il n'est plus. Il n'est plus dispo. Ouais.
Il est en rupture de stock. Et une fois que les 500 premières unités sont parties, après, tu en as 500 autres à 199. Oui, voilà, ça augmente. Et
okay.
Le but, c'est de faire venir les gens le plus tôt possible pour avoir la meilleure offre possible.
Ok, donc en fait, pour vous, c'est un succès. C'est encore mieux quand c'est un produit parce qu'en fait, quand tu fais 200 000 en 10 jours au lieu de 20 000, on va parler pourquoi t'as mis 20 000 après, vous avez mis 20 000 après, c'est qu'en fait, il y a déjà 1000 personnes qui sont intéressées par un produit qui n'existe même pas.
En fait, ils l'ont même acheté, quoi.
Ils achètent ce qu'ils voient dans leurs yeux, un truc qu'ils peuvent pas toucher, qu'ils peuvent pas sentir, qu'ils peuvent même pas vérifier sur quelqu'un d'autre, qui n'existe pas. Parce que je sais pas si t'as omis de dire que est-ce que c'est la première bague tracker de données.
Alors c'est pas la première. On a deux compétiteurs qui s'appellent un qui est américain qui s'appelle Motive et un autre qui s'appelle Oura qui est finlandais. Mm-hmm. Mais par contre nous on est sur une bague qui englobe beaucoup plus de fonctionnalités. Qui
va parler de votre positionnement après, ouais. Tu vois, où vous en êtes même en termes de qualitativement. Ouais. J'ai juste surtout envie de revenir sur le Kickstarter. Pourquoi vous avez mis que 20 000 euros ? Tu m'as dit que vous, depuis le début, vous êtes sûr, ça va cartonner, ça va marcher. Alors, parlons un petit peu d'un truc. Vous visez concrètement, donc vous êtes français, mais concrètement, votre cible majoritaire, c'est le marché américain. Oui. Pourquoi ? Comment vous le touchez ? Bon, ça va marcher. Sur les 1000 personnes, tu penses qu'il y a combien de français ? Vas-y, parle-moi un peu de pourquoi ce marché américain.
Nous, on a été déjà persuadés de base que le marché américain, c'était notre marché et qu'on n'allait pas se concentrer vraiment sur la France, même l'Europe. Je pense que ça va être dans un second temps. Pourquoi ? Parce que il suffit de... Quand tu marches dans la rue, que tu rencontres des gens, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des Apple Watch, des Fitbit, en tout cas bien moins qu'aux États-Unis. Lorsque tu vas là-bas, c'est vraiment limite une personne sur 5, une personne sur 4, et c'est impressionnant. Et donc, ils sont bien plus ouverts à ce genre de technologie. Peut-être qu'ici, on a un petit peu peur de la data aussi. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais voilà, c'est quelque chose qui, j'en suis sûr, va se démocratiser en France et en Europe parce que ça arrive toujours 5-10 ans après.
Ouais.
Donc voilà, on se lance sur le marché qui est d'abord le plus simple pour nous. Donc Kickstarter, on ne voulait pas faire Ulule ou autre chose parce que Kickstarter, c'est vraiment une cible américaine. Donc aujourd'hui, on a presque 80% de ceux qui ont mis de l'argent qui sont américains. Donc ça confirme ce qu'on se disait. Et pourquoi on a mis 20 000
En objectif.
Alors, le 20 000, il voulait un peu rien dire. Il y a quelque chose sur Kickstarter qui est un peu secret. Mais le but, c'était d'avoir... En fait, dès que tu dépasses... Bon, de base, lorsque tu mets un budget minimum... Donc, c'est le budget à partir duquel tu vas recevoir ton argent si tu le dépasses.
C'est le goal, en fait.
Voilà, c'est le goal. Okay. Donc, si tu mets 100 000 et que tu n'atteins pas les 100 000, tu n'obtiendras pas, imaginons, les
80 000. Tu auras levé 99 000 pour rien, voilà. Quoi.
Donc là, déjà, ça nous permettait d'avoir l'argent de sûr. Et de deux, aussi, d'avoir un ratio financement vs goal qui augmente. Donc là, si on regarde, par exemple, sur ma campagne, il y a écrit 900%. Ouais. Et pourquoi on fait ça ? C'est parce qu'en fait, ça va augmenter le SEO sur la campagne Kickstarter, sur la plateforme, et du coup ça va nous faire plus de ventes, plus de tout, les médias qui sont wow, 900%, on va parler de vous.
Ouais. Okay, et même en termes de Kickstarter, ils vous mettent en avant parce que vous êtes ceux qui ont à 900%, le deuxième il va être à 700. En fait, c'est facile. En fait, ce que tu m'as dit, c'est qu'il y avait un dilemme entre tu veux un goal pas trop élevé pour l'avoir, comme ça même si t'as levé 40 000, t'as 40 000, alors ton truc en vrai tu pourras enlever 200K, mais si au bout de, il te reste un jour et que t'as 197 000, Tu vas appeler ta sœur pour qu'elle mette les 3000 vite fait pour avoir 200K. Sinon, tu as concrètement la haine, en fait. Donc, c'est d'avoir ce ratio entre mon objectif qui est atteint et là où je peux aller le plus. Donc, il faut mettre un objectif pas trop petit. Sinon, les gens vont dire, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Parce qu'en plus, avec le prix que tu as, un truc qui peut vite fait aller à 300 euros, 20 000, in fine, quand tu t'adresses au marché américain, ça peut aller assez vite.
Ouais.
Donc, en fait, c'était une bonne strat. Est-ce que tu penses qu'avec 50 000, ça aurait fait pareil, en fait ?
Avec 50 000, ça l'aurait fait, mais un peu moins. En fait, le but, c'était d'être fully funded en 24 heures pour faire cet effet.
Et ça a réussi ?
Ça a réussi. On l'a fait en 4 heures, du coup.
En 4 heures ?
4 heures.
Ok.
Donc on aurait pu en vrai mettre 30 000, 35 000 parce que c'est ce qu'on a fait en une journée.
Ok.
Et ça aurait été notre goal de le faire en moins de 24 heures et du coup d'être mis en avant sur la plateforme par les médias, etc.
Et donc du coup, médias, communication, marché américain, ça a été quoi votre stratégie ? Alors, ma question en gros, elle est plus complète que ça. C'est, donc là, la durée de la campagne, c'est 31 jours. 30 jours, 31 jours.
Ouais,
comment vous avez préparé, programmé cette campagne, semaine par semaine, dizaine par dizaine, avant ? Voilà, donc je pense que est-ce que vous avez utilisé des RP américains, comment s'est passé avec la presse là-bas, quels ont été vos leviers en fait pour préparer la campagne et pendant, surtout parce qu'une campagne, c'est pas parce que là vous êtes à 200K que c'est fini, je pense que vous rêvez d'aller à 300 000, 400 000, c'est possible, quels ont été vos différents leviers avant, après?
Ok, alors créer une campagne Kickstarter, déjà c'est tout un taf, ça nous prend mais 90% de notre temps. Heureusement qu'on est plusieurs dans l'équipe et qu'on arrive à gérer aussi le développement de l'autre côté. Mais voilà, donc quand tu lances une campagne Kickstarter, il te faut une liste d'emails d'à peu près 10 000. Ça, tu l'as pas sans faire ta publicité. Il te faut de la communication sur ton marché. Nous, les États-Unis, donc c'est ça qui est. En fait, ça nous rendait la chose bien plus compliquée. Parce que nous, on est français de Paris et on pouvait pas aller rencontrer les gens là-bas, on pouvait pas faire de la pub là-bas. Du coup, on prépare le Kickstarter depuis un an. Genre vraiment un an,
okay.
Où on a recruté notre agence de communication aux États-Unis, notre agence de relations presse aussi, qui est au Canada, mais proche des États-Unis, qui comprennent le marché. Ça fait un an qu'on met en place les visuels, qu'on met en place la stratégie d'acquisition, comment on va en faire parler là-bas, etc. Qu'on envoie des mails aux médias pour leur expliquer ce qu'on fait, qu'on essaie de créer une communauté sur les réseaux sociaux, donc c'est ce qui coûte le moins cher. Sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, en faisant ça, en essayant de créer cette communauté sur LinkedIn, Facebook, etc., les gens qui étaient spécialisés dans le milieu des wearables aux États-Unis ont commencé à entendre parler de nous et nous ont approchés. Donc, on a eu trop de chance. Il y a eu celle qui organise le Wearable Tech Summit, qui est, on va dire, un salon et une conférence au CES spécialisée sur les wearables, qui nous a approchés, qui nous a invités au CES 2020,
à y aller, en fait.
Là, à y aller et à parler de notre
projet. C'était tout récemment, là.
Ouais. Et ça, c'était incroyable parce qu'on a pu approcher le marché américain, rencontrer des milliers d'experts, parler de notre produit, même comprendre, en vrai, on le connaissait, le marché, mais
la réalité du terrain,
confirmer, quoi, voilà, confirmer tout ce qui se passait. Comment on prépare une campagne Kickstarter ? C'est un mois à l'avance, il faut créer son email list, donc sa liste d'emails.
Vous l'avez composé comment ? Est-ce que c'est du scrapping sur LinkedIn ? Est-ce que c'est du scrapping via landing page aux States ? Les 7DK, ils sont arrivés où ?
Alors en fait, avec tout l'argent qu'on avait récolté, on a au moins la moitié qu'on a dédié à ça. C'est-à-dire faire de la publicité sur Facebook, Instagram. Et voilà, essayer de récolter des
adresses. Il y a eu des bons taux de conversion, il y a eu des bons résultats ?
Ouais, moi je dis la moitié en fait, mais non, on a accordé seulement 10 000 juste pour la partie email et 10 000 euros, du coup ça nous a fait 10 000 emails. Donc okay. C'est à peu près 1 euro l'email.
Okay.
C'est ce à quoi on s'attendait et voilà. On a fait ça, on a fait aussi des techniques un peu black hat, on va dire,
ouais.
Scraper des emails, etc. Pour,
okay.
Ça, on a récolté aussi plein d'autres.
Ouais, quelques milliers.
Voilà. Mais ça, je vous laisse, j'ai pas le droit d'en parler.
Ouais,
voilà.
Ouais, y a des outils pour ça qui sont très connus, qui deviennent de plus en plus populaires, à la fois sur LinkedIn comme sur d'autres sites.
Ouais.
Et en vrai, c'est Black Hat, mais c'est legit.
C'est
alors,
legit.
Dans le cadre où. Alors, c'est
après,
legit.
Il y a RGPD.
RGPD, c'est pas opt-in à 100%, donc voilà. C'est legit, mais voilà quoi.
Ouais, en vrai, tout le monde l'utilise et c'est gratuit. Et,
et je pense qu'il y a plus d'une personne dont vous avez black hatté l'email qui en vrai était très content de recevoir le mail.
Ouais.
Donc,
bah en fait, on ne prend pas des emails de n'importe où, n'importe comment. C'est vraiment ciblé.
Une base quali en fait.
Tech. En fait, c'était vraiment tech.
Okay.
Donc voilà. Donc il y a eu toute cette partie un mois avant la campagne, mais il y a aussi pendant la campagne. Et même, en fait, même avant, je n'ai même pas fini. Donc comme on est allé au CES, on en a profité pour aller rencontrer des médias. On a fait un tour des médias donc, à Las Vegas, mais aussi à New York. On a rencontré des gros médias qui ont publié sur nous, Gizmodo, etc. Ça aussi, c'était ouf. Donc en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est des démonstrations tout simplement. Donc on a ramené nos bagues, notre chargeur, on leur a montré. Donc, voilà, ça vous réveille, voilà, ça détecte
avec l'appli et tout ?
Ah ouais, okay. Totalement.
La totale, quoi.
Et okay. C'est des experts, hein, donc tu peux pas…
Tu peux pas mentir sur le produit.
Tu peux pas mentir.
Okay. C'est soit tu te grilles, soit tu es bon.
On avait super peur parce que… Voilà, c'était, s'imagine, il y a une panne avec l'objet, voilà, c'est horrible. Tout s'est bien passé, ils ont publié sur nous, ça nous a fait beaucoup de traction. On rentre en France, on est reparti à Londres parce que là aussi on avait des démos médias. Donc là c'était pour les médias qui étaient en Europe, en Angleterre, okay. Il y a eu The Times, etc. Donc c'était incroyable. Mmh. Et après il y a eu la partie pendant la campagne. Là c'est quoi ? C'est faire des pubs aussi. De la publicité donc en ligne aussi faire du coup des podcasts comme aujourd'hui. La télé, on est passé à la télé, on passe samedi sur LCI, etc.
Ok. À quelle heure ?
Le matin.
Ok. Je
peux plus te dire l'heure, mais c'est le matin.
Ouais, le matin, ok. Ouais.
Et voilà, c'est de la publicité, donc que ce soit en on, en live, en off, voilà, partout, essayer d'avoir le plus de traction possible.
Et là, qu'est-ce qui reste ? Bon, le podcast, il va paraître environ 2 semaines après, donc là, on sera à la fin du mois de février. Okay. Qu'est-ce qui reste, en fait, dans les 20 jours ? Ça va être quoi, vos différents leviers ? Est-ce que vous continuez sur cette traction actuelle ? Donc voilà, ça va continuer, il y aura quelques milliers par jour. Ou est-ce qu'il y a vraiment un rush final, un truc de ouf qui va se passer dans les 3 derniers jours, une offre promotionnelle sur Kickstarter ? Qu'est-ce qui va se passer ?
Ouais, donc on prévoit certains trucs parce qu'on sait que en fait sur Kickstarter, comment ça se passe, c'est au tout début t'as une énorme traction et au milieu c'est ça se calme et à la fin ça repart.
Parce le cycle de vie d'une campagne quoi.
Voilà. Okay. À la fin ça repart parce que les gens ils sont en mode ah il reste plus que 2 jours, c'est bon j'achète. Et c'est là qu'on on a préparé pas mal de promotions, beaucoup de budget com, des visuels.
Ça arrive quoi. Il y a une bonne partie du budget. Et même de la stratégie qui a été pensée pour la dernière semaine ou pour le ending en fait.
Ouais, c'est ça.
Ok, bon, on va parler de l'équipe, de qui a conçu cette bague en fait et de comment, parce que depuis tout à l'heure, tu fais que de me parler des profils commerciaux au sein de la boîte, au sein des founders, mais je pense que du coup, même s'il y a eu beaucoup de collaborateurs tech qui vous ont aidé là-dessus, à un moment, il faut la compétence au minima dans la team. Mais avant tout ça, voilà, vous, le positionnement en termes de fonctionnel et précis et discret à la mode, vous êtes au top par rapport à Fitbit. Il y a quoi ? Il y a Garmin, Misfit, Motive, Oura. Et ça, pour vous, c'est pourquoi eux, ils sont pas allés là, en fait ? Eux, ils se disent, soit on fait un truc qui est beau et qui donne de la data classique, les gens demandent que ça, il n'y a pas besoin de leur donner plus. Ou alors, on fait un truc qui donne de la data, etc. Par contre, le truc, quand tu le regardes, tu as l'impression que c'est un truc de Terminator, tu peux pas le mettre pour sortir. Quoi.
Mais en fait, j'ai même pas la réponse à ta question. C'est quelque chose que tout le monde nous pose et même nous, on s'est posé la question. Pourquoi on n'est pas les seuls parce qu'on a quand même 2 compétiteurs qui font des bagues. Mais pourquoi eux, les géants, qui ont limite argent illimité, pourquoi ils ne se lancent pas dedans ? D'un côté, ça peut s'expliquer par la complexité de la miniaturisation. Enfin, ce qu'on a fait, c'est...
Google qui a racheté Fitbit, demain, ils repositionnent le truc, ils font un produit de malade.
Ouais, c'est ça.
Tu vois
et nous, en fait, je pense qu'on a juste la chance d'avoir dans l'équipe des talents, mais incroyables. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, quand on monte nos PCB, les experts, ils sont en mode, mais comment vous avez fait ça ? Le mec est juste trop fort et après je pense qu'on a aussi on est jeune, on a une vision qui est plus de jeune en fait, c'est je sais pas comment l'expliquer.
Vous êtes pas des ingénieurs de 45 ans qui travaillent sur un produit, sur une vision, on veut faire ce produit là mais en fait voilà. Je sais pas trop pourquoi.
Parce qu'en fait faut savoir que tout ce qui a été Fitbit, Garmin et tout, au départ c'est des travails de scientifiques, de recherche. Donc okay. En fait, c'est des gens qui étaient à l'université, c'est les pionniers. Donc c'est les personnes qui ont réussi à mettre un capteur de pouls et à mettre un accéléromètre dans un bracelet et à carrément pouvoir faire ce qu'un laboratoire faisait. Donc c'est-à-dire analyser ton sommeil, etc. C'est déjà énorme, c'est déjà incroyable en fait qu'ils arrivent à faire ça. Mais voilà, maintenant on est 20 ans après, la technologie elle a augmenté. Et aujourd'hui, nous, on est sûr qu'on peut faire des choses qui sont bien plus puissantes que ça.
Ok, bon, parle-moi un peu de tes cofondateurs. Présente-les-moi, nom, prénom, ce qu'ils font, leur profil et leur rôle dans la boîte. Vous, ensuite, vous êtes français. Comment vous travaillez en remote chacun de votre côté ? Est-ce que vous voyez tous les jours ? Comment ça bosse ? Qui fait quoi ?
Ouais. Du coup, le président, je vais commencer par lui, Amaury Cosman. Donc, c'est celui que j'ai rencontré dans ma classe en école de commerce. Donc, il a à peu près le même background que moi. Et ensuite, on a recruté en troisième personne Adiaza Suerno sur AngelList, du coup. Lui, ingénieur en mécatronique, le boss de la miniaturisation, on l'appelle, incroyable. Il gère toute la partie électronique et aussi la partie firmware. Il se démerde aussi dans tout ce qui est algorithmique et un peu application.
Il est français ?
Non, oui et non. Il est indonésien, il est immigré en France et... Et en fait, voilà.
Mais en gros, ma question, c'était comment vous communiquez avec lui? Il est français 100%.
Il parle français, il parle français, okay, il parle okay. anglais, il parle... Il est tout, c'est un génie.
Ok. okay.
Voilà. Donc, c'est avec lui qu'on a commencé à avoir des réels prototypes. Parce qu'avant ça, on avait d'autres personnes dans l'équipe, des étudiants qui nous aidaient à faire vraiment des prototypes super basiques pour tester, par exemple, un moteur vibration dans une bague. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça réveille pour ne pas s'enfoncer dans un truc
La sensation, etc. Alors, si tu peux me permettre, les tests un peu classiques. Quoi.
Voilà, les tests okay. qui est de base, une bague imprimée en 3D avec un moteur vibrant installé dans un Arduino, voilà.
Ok.
Lui, il est arrivé, le boss, ok, je vous fais direct un PCB miniaturisé de ouf, double face, flex et rigide en même temps, il fait ça lui-même. Après, on travaille avec des bureaux d'études pour installer ça dans une vraie mécanique. Donc là, c'est plus de l'impression 3D, procédés qui sont bien plus différents. Et puis après, tout ce qui nous manquait, c'était l'algorithmique. Et là, on a aussi recruté, bah, pareil, sur AngelList et aussi par contact. Donc, deux data scientists qui, eux, bah, s'occupent de mettre en place les algorithmes, que ce soit dans la bague, mais aussi sur l'application.
Okay.
Et d'installer tout le système de machine learning qui va permettre d'améliorer tout ça.
Et il y a une quatrième personne qui est Rohan.
Ouais, Rohan, c'est un des deux data scientists en fait. Okay. Il y a Andrew et Rohan qui sont les deux data scientists.
Donc là, concrètement, dans la boîte, vous êtes quatre.
On est cinq du coup. Moi, Amaury, Adiaza, Andrew et Rohan.
Ok.
Cinq qui sont en interne. Mais après, voilà, en externe, il y a un bureau d'études mécaniques, un bureau d'études électroniques. À chaque fois, c'est voilà, ces bureaux d'études, on était en mode, nous, on n'a pas 50 ans dans la tech. On s'y connaît pas non plus énormément, on n'est pas des experts du milieu, donc on veut au moins une personne qui nous dise oui, vous êtes dans du bon côté ou non, ce que vous faites c'est compliqué. Donc à chaque fois c'était de la vérification par des experts, on avait besoin de ça. Et on s'est aussi fait du coup aider par Dragon Innovation pour ensuite aller trouver nos usines, qui ça c'est hyper compliqué, franchement c'est le truc le plus compliqué, je pense, quand tu te lances dans le hardware, faire enrôler une usine et lui dire faites-moi confiance s'il vous plaît, on n'a pas beaucoup d'argent nous, mais on est sûr d'avoir un bon produit, c'est vraiment la chose la plus compliquée.
Pourquoi? Qu'est-ce qui est pour être réticente, sur quel point? Parce que tant que tu les payes, in fine...
Ouais, mais du coup, il faut avoir l'argent, et on parle de milliers et de milliers d'euros, et la première question qu'ils vont te poser, c'est bah, est-ce que tu as cet argent, et on veut une preuve, est-ce que vous avez levé des fonds, ils vont te demander tes papiers, etc.
Okay.
Et ensuite, ça dépend aussi de la complicité de ton projet, est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on peut pas le faire. Et nous, c'est sûr qu'on a eu d'énormes complexités avec ça. Et Dragon Innovation nous a trouvé des usines, du coup, en dehors d'Europe. Mais au moins, voilà.
Alors, justement, après la campagne, moi, j'ai une roadmap sous les yeux. Alors, vraiment, l'objectif de cette campagne, c'est de lever combien? Parce que là, in fine, c'est réussi, mais 20 000, vous saviez que ça allait le faire. Là, vous êtes à 200K, il reste 20 jours. Vraiment, vraiment, vous espérez combien?
300 000.
300 000 juste avec Kickstarter?
Oui.
Et après, je pense que vous n'avez pas cramé tout le cash que vous avez avec la BPI, etc. Donc, il vous en reste. Mm. Et cet argent-là, il va partir dans la production des bagues, tout?
Non, il va partir surtout dans le développement applicatif et l'argent qu'on récolte de Kickstarter pour la production.
Ok.
Mais ensuite, il faut aussi qu'on recrute l'équipe. Il nous faut des bureaux. Parce que
alors, là, tu anticipes un peu trop. Alors, du coup, ma question, c'était la roadmap que j'ai sous les yeux. À un moment, je pense qu'un tel succès comme ça, de la visibilité aux States, qui est in fine le meilleur. Alors, je ne sais pas si dans les chiffres, je ne sais pas tout ce qui se passe en Chine, etc. Mais pour la hardware, c'est quoi le marché le plus intéressant, que ce soit en volume ou même en intérêt, entre les États-Unis et la Chine?
Alors, c'est sûr qu'en volume, ça va être la Chine.
Ouais.
Après, le problème de la Chine, c'est que c'est un marché qui est vraiment plus compliqué que les Américains pour nous. Que ce soit dans le langage.
Même pour pénétrer le marché, c'est trop compliqué, quoi.
Pour y pénétrer, pour plein de choses, ton IP, il y a plein de choses.
Bon, alors, ma question, c'était justement, quand on voit une campagne avec un tel succès, pour l'instant, de la visibilité au CES, etc., je pense que ça doit attirer la convoitise de pas mal de personnes, que ce soit pour acheter le produit, mais surtout pour investir dans la boîte. Aujourd'hui, je pense que vous avez été contacté par pas mal d'investisseurs. Est-ce qu'il y a eu tout cet écosystème d'Invest qui s'est déjà approché de vous? Comment vous le traitez? Comment vous réagissez à ça? Et justement, par rapport à votre roadmap, est-ce que c'est quelque chose que, voilà, comment vous allez le prendre en compte? Est-ce que ça va vous servir? Est-ce que c'est déjà anticipé, en fait? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez prendre de l'argent externe pour vous propulser, en fait, beaucoup plus vite?
Ouais. En fait, nous, on avait essayé de lever des fonds avant cette campagne Kickstarter parce que le but du jeu, c'était d'arriver sur le marché le plus rapidement possible. Voilà.
Okay. Parce que le Fitbit demain, c'est pas ce qu'ils peuvent faire.
Non, mais voilà, ça va super vite et voilà. Le problème, c'est qu'on s'est fait refuser un peu partout. Pourquoi ? Parce que
d'un coup, vous vouliez lever combien ?
1,5 million à peu près.
Okay.
Donc pour un seed, c'est déjà pas mal. Mais dans le hardware, c'est normal, on va dire. Et le problème, c'est que les fonds d'investissement et Business Angels, ils voulaient pas prendre de risques. De un, ils savaient pas s'il y avait vraiment de la demande. Et de deux, c'est du hardware, c'est compliqué, on a peur. Voilà. En fait, nous, on s'est dit, bah, en fait, la seule façon de le faire, c'est de montrer qu'il y a de la demande, du coup. Donc, c'est ce qu'on nous demande. On a lancé ce Kickstarter. Là, notre but, c'est de retourner chez eux parce qu'ils nous attendent. Ils nous ont dit, bah, en fait, nous, on accepte, mais que si vous nous prouvez que ça marche. Et ouais, là, du coup, nous, on a tous nos anciens VCs qu'on avait vus, plus de nouveaux, du coup, qui entendent parler du projet, qui nous envoient des emails et qui veulent rentrer dans le round. Donc là, on est en train de construire un round pour juste la fin du Kickstarter. Et bah, toujours 1,5
million. 1,5 million pour un seed, du coup.
Ouais.
En gros, le pré-seed, ça va être Kickstarter et le seed. Et donc, du coup, qu'est-ce qui arrive ? Donc là, moi, je vois la première livraison, elle arrive en septembre 2020.
Ouais.
Pour mars, pour, alors, septembre-août, ouais. Du coup, cette levée, enfin, ce round, elle va arriver quand ? Vous pensez boucler quand ? Est-ce que vous avez fixé une date ? Ou est-ce que bon, vous avez quand même tourné avec l'argent du Kickstarter ? Ça va faire son trou ? Est-ce que vraiment vous voulez vous fixer un truc pour partir directement ?
Ouais, on veut qu'en mai ce soit fini.
Ok, donc en mai vous voulez avoir les fonds,
ouais.
Pour déclencher quoi ?
Pour déclencher l'accélération. Parce qu'en fait, c'est pas parce que la bague n'est pas encore produite que nous on peut pas faire du marketing et augmenter nos ventes sur notre site internet et sur d'autres plateformes. Donc c'est continuer à faire de la publicité, continuer à vendre. Augmenter l'équipe, l'améliorer, donc recruter des gens et du coup accélérer tout ce qui est processus de développement. Plus tard, nous, on a une vision qui est aussi très façonnée par la santé. C'est ce qui nous pousse à faire ce projet, c'est sauver des vies, sauver des gens.
Faire un vrai produit qui donne des vrais... En gros, c'est pas juste faire une bague parce que ça pourrait plaire et que ça pourrait bien se vendre. C'est vraiment, on veut faire un produit qui est utile à la société, qui a limite un peu RSE, en mode, on veut faire un produit qui est vraiment utile, quoi. C'est pas du vent.
Par exemple, la détection de l'arythmie, de l'apnée du sommeil, l'hypertension, c'est des choses qu'on peut faire avec notre bague. Et le problème pour ça, c'est qu'il faut être un appareil médical ou alors être approuvé par la FDA aux États-Unis. Et ça, c'est des certifications qui prennent beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc l'argent va nous servir aussi à ça. Et à développer ces features sur lesquelles on travaille déjà et qu'on sait qu'on peut le faire. Voilà. Et du coup, après, accélérer que ce soit.
Et du coup, le déploiement en France, est-ce que dans un an, je peux aller acheter la bague à la Fnac ?
Alors, pour le moment, on ne sait pas. Je pense que tout cela, ça va juste être une question d'opportunité. On verra s'ils nous contactent.
Quels seront, je veux dire, les canaux de distribution ?
Nous, on était plus partis sur notre site internet.
Ok.
Voilà, si vous voulez la bague, venez sur le site. En fait, le régime de distribution, il est très simple. On fait 7 tailles de bagues différentes. Donc, vous achetez.
Ah oui, très bonne question. Ouais. Ouais.
Vous achetez pour 5 euros, vous achetez un pack qu'on vous envoie avec des bagues imprimées en 3D qui ont exactement la forme de toutes les tailles. Vous les testez pendant 2-3 jours. Vous vous dites, OK, c'est cette taille. Vous revenez sur le site, vous rentrez le code qu'il y avait sur votre boîtier et vous en fait, choisissez votre taille de bague avec les coques interchangeables que vous voulez. Et voilà.
Comment je connais ma taille de bague, moi ? Parce que moi, je porte pas de bague. Par exemple, demain, je vais acheter... Comment je...
Pour ceux qui connaissent pas les bagues, ça sera avec ce petit boîte de test, en fait, où on va vous envoyer des bagues imprimées en 3D. Tu as juste à les essayer, tu sauras directement ta taille. Pour ceux qui la connaissent, en fait, nos tailles de bagues reflètent 100% ce qui existe avec les tailles de bagues.
C'est les standards.
C'est le standard. Et sinon, tu as même des guides que tu peux trouver sur notre site internet et qu'on enverra aussi aux gens à la fin du Kickstarter. Où en fait ils peuvent imprimer une feuille en échelle 100% et l'enrouler autour de leur doigt et savoir ce que c'est.
Alors j'ai fait un rapprochement dans ma tête, tu vois Feed, lancé par Anthony Bourbon, eux tu peux acheter sur leur site, encore beaucoup. Alors je connais pas la proportion, bon, je pense que les canaux physiques c'est une beaucoup plus grosse part de leur chiffre d'affaires, mais tu peux acheter Feed dans n'importe quel Franprix, etc. Tu peux les trouver. Mais vous, in fine, pourquoi ce ne serait pas une bonne opportunité de distribuer comme ça en physique ?
Non, c'est carrément possible de la distribuer à la Fnac, etc. Après,
Boulanger, Fnac. Aujourd'hui, Fitbit, moi, franchement, les mondes connectés, j'en ai jamais acheté une. C'est un bon produit, je trouve ça hyper pratique, etc. Mais je sais pas, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je peux acheter Fitbit, etc. à Boulanger, à la Fnac.
Ouais, t'en trouves, même à Decathlon, etc., je crois.
Okay.
Pour le moment, en fait, au début, on va commencer sur notre site. Après, à partir sur des sites internet qui sont bien plus spécialisés dans les wearables, les bracelets connectés, etc. Et oui, après, notre but, bien sûr, c'est d'être dans les Walmart, dans les Fnac, dans les Saturn, okay. etc. Mais on sait qu'il faut... Ils prennent beaucoup plus de marge.
Walmart, voilà. c'est, je crois que c'est l'entreprise qui a le plus d'employés au monde.
Ouais.
Walmart, c'est ça ?
Ouais, ouais, c'est ça, aux États-Unis.
T'es distribué à Walmart, c'est l'équivalent de 127 France.
C'est ça.
Alors, mon autre question, c'était, aujourd'hui, vous pensez à une bague. Donc, on ne va pas se précipiter, on ne va pas parler de n'importe quoi, mais est-ce que ça pourrait se décliner ? Vous, vous restez circulaire, le nom, je pense qu'il voilà, c'est une ring, une bague. Ouais. Est-ce que vous pensez déjà vous pensez à plein d'autres features ? Est-ce que pour exploiter ces features-là, il faudra décliner un peu le produit ?
Ouais. Bah alors nous, du coup, on est...
Sans spoiler, si tu n'as pas envie de donner des indications à des futurs concurrents, etc.
En vrai, hein. On peut donner des indications. Puis de toute façon, je ne pense pas que nos concurrents comprennent le français. Mais nous, on est dans la miniaturisation, c'est-à-dire qu'on ne partira jamais sur un bracelet ou une montre. On ne partira jamais sur quelque chose de plus gros. Maintenant, si on peut faire plus fin qu'une bague, plus tard, on fera. Mais on a aussi beaucoup d'autres idées d'autres bagues, que ce soit même dans le B2B, parce qu'il y a plein d'applications différentes. Ça va peut-être pas être de la santé. Il y a des questions de sécurité, il y a des okay. questions de plein de choses. Et d'autres features aussi, rajouter du NFC, du paiement.
Ok, donc il y a du circulaire pour la santé, il y a du circulaire pour d'autres secteurs, ouais. j'ai tout de suite compris. Ok. Ouais. Et donc, refait en 10 secondes, hein, l'appli et le site, ils ont été développés comment, par qui ?
Alors, le site internet, on l'a fait en interne.
Ok.
Tout. En 3 ans, on a eu le temps.
Avec un petit tool à la main ou
Non, on a appris nous à développer. On s'est mis sur Webflow, okay, Webflow. Qui est un outil incroyable
pour faire
des animations, etc. Et l'application, on a de la chance parce qu'Adiaza, donc notre CTO, connaissait, enfin son frère en fait, est développeur app pour des jeux vidéo, okay. donc truc de malade. Donc pour lui, une application Bluetooth, ça passe. Donc c'est ce qui, voilà, on a développé notre premier prototype Android grâce à lui. Et là, on commence à travailler avec un autre studio qui est bien plus gros, qui a une plus grosse équipe pour faire iOS et Android et même développer le reste des features en fait.
Ok. Donc, une fois tout ça fini, une fois launch, une fois live en fait, officiellement, ça va être quoi ? Est-ce que vous allez toujours avoir du budget ads ? Vous êtes positionné digitalement, un petit Instagram pour maintenir le truc ? Est-ce que ça va devenir viral en mode tous les Américains vous prennent une photo de leur bague, vous allez repartager, tu vois ? Est-ce qu'il y a une stratégie déjà qui est pensée ou ce sera classique ? Site internet, publication Facebook par-ci, par-là, où il y a vraiment une envie. Tu m'as dit que vous êtes sur l'aspect un peu communautaire. Tu m'as dit ça au début, je crois.
Ouais.
Justement, est-ce que vous allez faire participer cette communauté ? Bon, c'est toujours intéressant, mais toutes les marques, entreprises n'y arrivent pas ou n'ont pas envie. Mm. Est-ce que vous, c'est un point vraiment où vous allez jouer dessus ?
Ouais. Moi, je trouve que c'est la base, en fait, la communauté. Et puis, c'est ce qui va faire que les gens vont parler autour d'eux et c'est ce qui marche le plus. Donc oui, bien sûr, on aura un budget com, on aura un budget tout cela, comme toutes les entreprises. Mais ce qu'on veut faire, c'est vraiment développer ce côté communautaire au sein de l'application. Donc avec des challenges, des classements, des events en live, donc dans la vraie vie. Et puis même, on parle déjà partenariat avec plein de trucs et des partenariats de malades. Si ça se fait, franchement, ce serait incroyable. Mais avec directement des milliers d'utilisateurs. Donc,
okay.
Donc voilà. Je ne vais pas en parler dès maintenant parce que ce n'est pas fait et puis c'est en discussion, mais on verra.
Ouais. Tu as bien raison. Et surtout qu'en fait, cet aspect communautaire sur le wearable, je ne sais pas si ça existe, parce qu'à part prendre sa Apple Watch en photo juste pour montrer qu'on a une montre Apple, ce n'est pas ça un aspect communautaire. Je ne sais pas si dans le wearable hardware, il y a du...
Il y avait Fitbit qui faisait ça, je crois. C'était lorsque quelqu'un faisait une course avec son Fitbit, à la fin, tu pouvais partager ton score, genre tu avais fait 40 km et parcouru tant de...
Ouais, c'est voilà. Comme le PS4 Share en fait.
Voilà. Okay. Ça arrive sur Facebook, les gens se disent qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est Fitbit, je vais aller voir. Donc, ça, c'est un peu la base, mais à l'intérieur, ils peuvent faire beaucoup plus que ça. On peut faire beaucoup plus que ça.
Ok. Bah, écoute, je pense qu'on a bien fait l'overall de tout ça. On a parlé du produit, de la campagne, Kickstarter, de comment vous l'avez pensé, etc. De la team, de la partie financement avant, pendant, et après avec les possibles investissements, le financement externe. Je pense qu'on a conclu. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, peut-être sur l'ensemble de tout ce qu'on a dit ? Peut-être un point que tu as omis
Non, mais par contre, après, si vous voulez me poser des questions, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn, donc Laurent Psalis. Envoyez-moi un message pour tous ceux qui font du hardware et qui se sentent aussi dans les mêmes conditions. Je peux vous aiguiller, je peux vous donner des contacts, on peut tous s'entraider. Donc voilà, nous, on est dans l'entraide. On essaye de ne pas se cacher et de faire nos trucs en secret parce qu'on trouve que c'est un peu débile et c'est ce qui nous on va dire nous empêchait de démarrer aussi nous au début. Je pense que au contraire faut motiver les gens. Le hardware, même si c'est compliqué, c'est ouf et faisable et on a plein de talents en France. Dommage que tout le monde parte en Chine, aux États-Unis, etc. Voilà.
Et je viens d'y penser, Angel List, je crois que c'est lancé par. Je sais pas, c'est Ryan Hoover comme Product Hunt, je crois.
Je sais pas du tout.
Honnêtement, je veux pas dire conneries, mais ouais. Il y a moyen. Okay. Et du coup, vous avez fait un launch sur Product Hunt ?
Sur Product Hunt, on a lancé notre produit, mais on l'a fait de façon totalement bête.
Ça a bidé, ça a pas pris ?
Ouais, en fait, il y a quelque chose, je sais pas si tu connais, mais sur Product Hunt, en fait, il faut avoir de l'intérêt. De hunters, donc des hunters qui sont confirmés, qui ont déjà liké plein de produits et partagé plein de produits. Et il faut avoir l'intérêt de ces hunters confirmés dès le premier jour. Et nous, on était en mode. En fait, pour que ton score augmente et ensuite être référencé sur la plateforme. Nous, on était en mode, bon, bah, on lance notre projet et voilà, une fois que le Kickstarter va se lancer, on fera de la pub dessus et ça va augmenter et voilà.
Okay.
Et en fait, on le lance et on se rend compte 3 jours plus tard que notre produit, on ne peut pas le trouver. Tu vas sur la barre de recherche de Product Hunt, tu ne le trouves pas. Et on a demandé, mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait? Et voilà, ils nous ont expliqué le truc. Et en fait, il faut 6 mois ou 3 mois entre chaque essai. Donc, on va réessayer dans 3 mois.
Vous allez refaire un launch, ouais. Etc. Ouais. Ok, il faut plein de upvotes, de mecs confirmés.
C'est ça.
Alors, sur Product Hunt, il y a les hunters, ouais. Donc quand tu upvotes, mais il y a les makers aussi. Ouais. Surtout, ils développent pas mal ça. Les gens qui ont launché, mais qui en plus soutiennent. Ok, et vous, du coup, vous avez un compte où vous upvotez plein de trucs et un compte makers? Vous avez supprimé ou vous l'avez gardé parce que
je... Non, on l'a gardé. En fait, il y a même 500 upvotes dessus, donc c'est
dégueulasse.
Pas mal. Voilà.
C'est même bien.
Mais c'est 500 upvotes de nos amis qui étaient après le premier jour.
Okay. Donc, ça ne servait plus à rien. Quoi. Parce que le but sur Product Hunt, c'est d'être dans les meilleurs des dernières 24 heures, les meilleurs de la semaine.
Exactement.
Et après, il faut même des awards, des choses comme ça.
C'est ça.
Ok. Bah, écoute, question bonus comme d'habitude. Est-ce que vous, sur le wearable hardware, vous faites de la veille? Comment vous avez mis en place cette stratégie de veille? Vous surveillez votre marché américain surtout, parce que c'est pas en France que tu vas surveiller ça. Voilà. Comment vous avez structuré un peu cette veille?
Alors nous, on fait de la veille surtout sur tout ce qui est wearables, bracelets, montres, que ce soit santé ou consumer. Et du coup, bagues. Bon, bagues, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est assez facile. Mais comment on a mis ça en place? Très simplement, juste des médias qui sont spécialisés dans la chose et qui relatent tout, en fait, plus rapidement que nous... On mettrait des outils.
En gros, vous avez des mots-clés, des médias, et toutes les semaines, vous regardez ce qui est paru, etc.
Ouais.
Ok. Deuxième question que je pose toujours, c'est est-ce que tu peux me donner le delta entre Laurent, avant la première de ces 3 boîtes, donc qui idéalisait un peu, sa vie d'entrepreneur, etc. Et maintenant, Laurent, qui est à ta 3e boîte, qui part pas mal du tout, et ce delta, que ce soit perso ou pro, dans l'exécution, dans le jus du truc.
Moi, j'ai un avis assez tranché dessus. Quand j'étais en école de commerce, on nous parle souvent de lancer sa boîte, lancer ses machins. Puis il y a eu la mode de start-upper.
C'est pas une mode, parce qu'il y a une dynamique. Aujourd'hui, je crois que c'est un jeune entre 18 et 25 ans, statistiquement bien sûr, veut lancer sa boîte. Et c'est pas un truc qui date de 2016, c'est en augmentation tous les ans. Et puis même si on regarde en France la stat de création de boîte, je crois que tous les ans, il y a... plus de 20% en plus tous les ans, même si la moitié de ces boîtes, plus de la moitié, sont des micro-entreprises.
Ouais.
Mais il y a quand même cet élan entrepreneurial.
Mais carrément, mais il y a eu surtout, ça a été porté par les médias, tu sais, on en a fait tout un truc, c'est super beau, faut y aller. Et nous, on était en mode, c'est archi simple, let's go. Voilà. Après 3 boîtes et celle-là, on se rend compte qu'il y a plein d'autres choses à faire et que c'est bien plus compliqué que juste... voilà.
Et est-ce que tu as beaucoup évolué, même sur le mindset, tu n'idéalises plus rien
Non, j'idéalise toujours parce que c'est ça qui me porte. Mais
c'est quoi ton moteur en fait? Qu'est-ce qui a fait qu'au bout de la deuxième boîte, tu te dis bon, allez, tu sais quoi, go, allez prendre un salaire à 4K avec mon diplôme plutôt que. Et qu'est-ce qui t'a fait garder cette. Qu'est-ce qui t'a fait être résilient en fait?
Déjà, moi, je pense qu'un peu comme tous les autres entrepreneurs, c'est résoudre un problème, mais ton problème, pas le problème de quelqu'un d'autre. Donc, de 1, c'était ça, et de 2. J'aime bien en fait avoir ma vision et pouvoir faire ce que je veux quand je le veux et non pas être restreint. C'est vraiment en fait c'est un peu le discours de base que tu
être à l'initiative
sortir,
de ce
ça,
que tu fais
c'est
quoi.
Ça, ouais.
Ok, c'est pas un discours de base, mais c'est un discours qui est en fait il est qualifié de basique juste parce qu'il est porté par beaucoup d'entrepreneurs. En fait c'est un moteur je sais pas qui est effectivement basique. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur tout ça?
Faut entreprendre, faut suivre vos rêves en vrai, faut faire ce que vous voulez faire vous sentez pas limité. Nous, dès le début, on nous a dit que ça allait être compliqué. Même devant
ça l'a été.
Voilà, même devant les VCs. Ouais, c'est pas fini en plus. Hein. Mm-hmm. Je leur parle comme si c'était fini, mais on a encore plein de choses à faire et plein de choses à prouver.
C'est ça qui est motivant aussi.
Devant les VCs, voilà, pendant un an, on s'est pris des bâches et des bâches. Et je vous parle pas de 2-3 VCs. Hein. Je vous parle de toute la place parisienne, même plus. Mais on l'a quand même fait. Et voilà, faut croire en ses rêves et croire. Voilà.
Eh ben, écoute, super discours. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager à votre entourage passionné ou directement dans l'entrepreneuriat sur LinkedIn ou ce que vous voulez. À laisser 5 étoiles si vous avez aimé le podcast à Two Step sur votre plateforme d'écoute préférée. À retrouver Circular du coup sur leur site internet. Sur la campagne, il doit rester 7-10 jours. Donc allez faire un tour et allez voir la bague, rien qu'aller voir les vidéos et puis les images qu'ils font pour comprendre le produit au-delà de ce qu'on a dit tout aujourd'hui. Parce que c'est vraiment un super produit, honnêtement. Merci à toi, Laurent, d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, alors je ne l'ai pas dit, mais à la permanence, donc à Paris, comme d'habitude, c'est un espace de coworking qui est ouvert 24/7, donc dans le 14e, dans le 18e, dans le 5e, pour les start-upers. Ils font aussi de la domiciliation, pour les étudiants, etc. Donc n'hésitez pas à venir. Merci, Laurent. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode. À bientôt.